Tout se passe comme si les créatures qui résident sur cette planète en ces années-ci, les créatures humaines qui par millions voyagent seules ou en famille, en clan et en tribu, voyagent parfois par nation entière, constituaient un sous-système à l'intérieur du système plus large des courants et des marées, des vents et des climats, des continents à la dérive et des masses de terre qui se meuvent et se soulèvent, s'abrasent et se disloquent. Tout se passe comme si les pauvres créatures fourchues qui marchent, voguent et chevauchent à dos d'âne, voyagent par camion, autocar et train entier d'un point de cette terre à un autre, ne faisaient que répondre à l'appel de forces naturelles invisibles, comme si c'était la gravité et non la guerre, la famine ou les inondations qui les faisaient sortir par petits groupes des villages à flanc de colline pour se rassembler sur les larges rives fangeuses de rivières en contrebas et attendre de pouvoir embarquer sur des radeaux pour descendre le courant vers la mer, traverser cette mer sur des bateaux qui prennent l'eau jusqu'à parvenir au lieu où elles viennent s'amasser en remous, rassemblent leurs familles égarées et leurs maigres possessions, élargissent leur logis, élèvent des enfants et deviennent à nouveau fertiles. Nous établissons la carte et mesurons l'ampleur des jet streams, des régimes climatiques, des vents dominants, des marées et des courants dans les profondeurs océanes. Nous repérons avec précision les escarpements, les fractures, les tranchées et les chaînes le long desquelles s'affrontent les plaques qui flottent à la surface de la masse terrestre. Nous nommons et répertorions les alizés de sud-est et de nord-est, les vents d'ouest de l'Atlantique, les moussons tropicales et les calmes équatoriaux, les Mistral, le Santa Ana, le Grand Canadien. Nous connaissons les courants de Humboldt, de Californie, de Kuroshio. Ainsi, les ayant énumérés et ayant suivi leur parcours, nous pouvons contempler notre planète et constater que jusqu'en son noyau le plus profond, cette sphère inspire et expire, s'élève et s'écroule, tourbillonne et tournoie en une danse merveilleuse et disciplinée au cœur du temps. Elle vieillit, meurt et renaît sans cesse par le mouvement, se créant et se recréant elle-même, tel un Ouroboros, le serpent qui se dévore la queue. Vu de haut, donc, la fuite d'un million et demi de Somalis, hommes, femmes et enfants, quittant avec leurs bestiaux malades et mourant la région d'Ogaden dans la Corne de l'Afrique, détruite par la sécheresse et la guerre, ressemblerait au mouvement du courant de mousson de sud-ouest, par exemple, qui, dans la chaleur de juillet, surgit lentement, presque imperceptiblement de la mer Rouge, juste au nord de l'Éthiopie et de la Somalie, traverse le golfe d'Aden en direction de l'océan Indien, où il rejoint le flux de mousson de nord-ouest, et amorce sa descente vers le sud, le long du sous-continent. Se replie l'hiver venu vers le Kenya et la Tanzanie, apportant la pluie à Mombasa et à Dar es Salaam, emplissant les immenses cours d'eau et les grands lacs de l'intérieur. Le déplacement des Somalis pourrait paraître inévitable, immuable et dénué de raison. Et dans la mesure où nous l'aurions observé à la manière dont nous observons le temps, ce déplacement pourrait sembler tragique. Nous ne pourrions échanger d'arguments quant aux responsabilités engagées, aux actions qu'il eût fallu entreprendre. L'idéologie ne serait alors qu'une forme de vanité, coupable complaisance. Nous quitterions notre siège ombragé devant notre cabane au bord de la route poussiéreuse qui relie les collines sans arbres de Damissa en Éthiopie à notre village proche du marché de Samasso en Somalie. Et nous nous avancerions sur la route avec un car empli d'eau, un bol de mil et de petit lait destiné à la famille dont nous guettons depuis une heure l'approche. Un homme, grand et décharné, sans âge, menant un chameau à moitié aveugle sur le dos duquel est attaché un fagot, suivi d'une femme qui porte un enfant efflanqué dans ses bras et, plus loin derrière, d'un autre enfant cadavérique. Nous les laissons dormir sous leur couverture élimée, à côté de notre cabane, et le matin venu, alors que le soleil se lève de l'autre côté de la plaine brune, leur donnons du pain et de l'eau en leur montrant le chemin qui mène vers Samasso à 30 km au sud-est et prononçons le nom de l'homme dont on dit qu'il possède un camion qui emmène vers la côte et les camps de réfugiés qui s'y trouvent, ceux qui descendent des collines. Les nomades de langue somalie qui, depuis 1000 ans, élèvent du bétail dans ce désert et sont maintenant contraints de fuir la famine, la sécheresse et la guerre. La guerre interminable opposant les Éthiopiens, avec leurs canons russes et leurs alliés cubains, aux soldats du Front de libération de la Somalie occidentale. L'homme, dont les soucis et l'épuisement ont entamé presque jusqu'à l'os la peau noire du visage, hoche la tête et répète le nom de l'homme au camion. Il vous emmènera à Kismaayo, lui disons-nous, exactement comme nous l'avons dit aux autres, car presque chaque jour, il ne cesse d'arriver. Les camps se trouvent là-bas, sur la côte. Là-bas, nourriture et abri. Des gens qui sauront guérir vos enfants de leurs plaies.